Enfant, Marlo déteste se faire prendre en photo. Mais elle a pour rituel d'en faire une tous les 3 mois environ et de la garder dans un tiroir. Régulièrement, elle les sort et elle les étale les unes à côté des autres. Elle prend son temps, les regarde bien. Peut passer plusieurs heures à les déplacer sur la table en les faisant glisser, doucement. L'une à la place de l'autre, l'une sur l'autre, l'une contre l'autre, retirant celle-ci du jeu juste pour voir ce que ça fait, si c'est mieux ou si c'est pire. C'est toujours douloureux. Elle ne trouve jamais que l'une a un quelconque point commun avec l'autre. Elle a l'impression de regarder des visages qui appartiennent à des personnes différentes, des personnes qui n'ont rien à voir entre elles. Pas le moindre air de famille. Et le visage qu'elle croise dans le miroir, le moins possible surtout, c'est encore celui d'une autre. Ces photos, elle les regarde à chaque fois avec le même étonnement, la même crainte. Certaines lui plaisent plus que d'autres. Celle-là, par exemple. Un visage avec cet air rêveur mais confiant, les yeux plantés dans le ciel. Celui d'une jolie petite fille comme dans l'attente d'une promesse. Celle-là, Marlo l'adore. Elle aurait donné n'importe quoi pour lui ressembler un peu. Elle la met d'ailleurs toujours dans les premières de la pile. Pas la première. Juste derrière 2 ou 3 autres, comme pour se faire une belle surprise la prochaine fois qu'elle sortira sa précieuse collection. D'autres lui sont vraiment insupportables. Elle les associe, leur fait rencontrer leurs semblables ou leurs contraires. Certaines sont comme elle. Elle ne supporte pas la proximité avec d'autres. Marlo non plus ne se sent pas chez elle. Et donc, ils ont envie de se sentir chez eux, les gens qui regardent le journal télévisé, ici. Marlo est jeune, mais elle a déjà la sensation d'être une étrangère. Quelquefois, le mercredi après-midi, elle va jusqu'au panneau avec la barre rouge qui raye le nom de la ville. Un pied en avant, l'autre en arrière. Un pied dans la ville, un pied dans nulle part. Allez, on change. Le gauche dans la ville, le droit dans nulle part. Hop. C'est bon. Allez, les deux dans nulle part. C'est comme ça que c'est le mieux. Un jour, elle ira. Nulle part. Elle se sent si mal d'être des leurs. Elle se sent si mal d'être chez eux. À 10 ans, Marlo réalise qu'elle ne sera jamais des leurs, qu'elle partira de chez eux. Elle est toujours dans la lune, cette gamine. La lune, tu parles. Sur la lune, Marlo les emmène tous, son père en premier. Allez, un bus pour la lune de Marlo. Une fois arrivée à destination, elle les met tous en rang, avec leur accent brutal, leur esprit plus étriqué encore que leur bout du monde, leurs vêtements gris ou marron ou noir, leurs vêtements trop grands, mais toujours bien repassés, leurs vêtements toujours différents, mais tous si semblables, leurs vêtements qu'elle avait envie de leur arracher, leur déchirer, parce qu'au moins ça aurait eu de la gueule. Elle les fait asseoir et elle se met à danser devant eux, s'imaginant belle et libre. Et différente, et légère, et loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin d'eux. Elle a une très belle robe blanche et fluide, avec une ceinture verte en soie, négligemment nouée à la taille. Une robe qu'elle fait tourner dans le vent, et qui lui dégage de très longues jambes qu'elle n'aura jamais. Et elle tourne, et elle tourne, et elle tourne, et ils la regardent, avec leurs yeux tout vides, tout creux, assis sur leur banc avec leurs vêtements marrons et noirs et gris, leur veste bien repassée. Et elle tourne, et elle rit, et elle sent le vent sur son visage. Et c'est bon, et l'air est frais, et...
Oh, Marlo, redescends, bordel!
Sa mère a gardé précieusement une photo où Marlo est sur les genoux de son père. Par hasard, elle tombe toujours sur cette photo. Toujours la même. Il n'y en a qu'une. Il est très beau sur cette photo. Il ressemble à Elvis Presley. Marlo doit avoir 3 ans. Elle ne s'en rappelle pas. On lui a beaucoup montré cette photo. Par hasard, toujours par hasard. À chaque fois, elle pense « Tiens, maman a dû avoir envie d'aller faire pipi. C'est pour ça qu'on m'a posé là. » Sa mère a dû en faire retirer plusieurs exemplaires. Chacun la sienne. Des genoux de son père, elle n'a que le souvenir de cette photo. Elle est douce, notre vie, à ce moment-là. Douce, chaude et humide. Comme une naissance. Tu pleures parfois. Doucement. Tu es heureux. L'eau du bonheur. C'est moi qui t'émeut comme ça? Moi sur qui tout a toujours glissé? On peut passer des heures dans la lumière du matin à se regarder, tout aussi émus l'un que l'autre de se retrouver face à face. Souvent, tu vas chercher ton appareil photo et tu traques le moindre de mes gestes, la moindre de mes expressions. Un regard encore embrumé par le sommeil, un sourire à peine perceptible. Je me laisse faire, comme un animal en captivité. Surprise parfois même à y trouver du plaisir. À me demander si la prochaine fois que tu vas appuyer sur le déclencheur, tu auras une trace fidèle de toute cette émotion qui ne traversera certainement pas le temps. Une preuve que ça a existé. On va déposer la pellicule chez un photographe et on attend que le développement nous rende les précieux petits bouts de notre vie. Il faut attendre plusieurs jours pour avoir les photos sous nos yeux. J'ai toujours la boule au ventre avant d'ouvrir la pochette, mais ça n'est pas douloureux. On se blottit l'un contre l'autre et on passe les clichés en revue. Il n'y a souvent que moi sur les photos. Oui, c'est bien moi, sur toutes, la même personne que celle qui les a en ce moment entre les mains. C'est doux de les regarder. Je la trouve belle, cette personne. Et c'est moi. Les photos sont nombreuses, mais c'est toujours la même personne dessus. On n'est pas une multitude. Tu as réussi à toutes les rassembler. Elles ne sont plus qu'une. Moi. Je ne les renferme pas dans une boîte. Elles sont vivantes. J'ai peur qu'elles étouffent. Alors, je laisse la pochette ouverte et la glisse dans un des tiroirs de notre petit meuble noir. Je ne les classe jamais. Elles sont libres. Qu'importe l'ordre, elles sont belles. Le dimanche midi, c'est sacré. Son cousin regarde Starsky et Hutch. Son cousin, toujours un tendre sourire au coin des lèvres. Son cousin, l'image pieuse de la famille. Incarnation de la paix sur le monde. Il a débuté sa carrière de saint dès sa naissance. A tout de suite affiché la couleur. Né le jour de la fête des mères. Dimanche 28 mai. Sa grand-mère fait réchauffer les plats. Vous n'allez pas me laisser ça les enfants. Sa grand-mère, que tout le monde appelle Minouche. Minouche porte toujours des robes de couleur avec de grosses fleurs. Toujours le rouge à lèvres assorti. Minouche, la reine des pâtisseries arabes. Minouche qui a gardé un pied sur son rocher de Constantine. Minouche qui n'a maintenant plus que de l'amour à donner. Et elle en met partout. Dans les makroutes, dans la mouna,
dans les loukoums, dans les cornes de gazelle, partout. Un homme aurait pointé un revolver sur elle, qu'elle aurait été capable de lui donner de l'amour. Les couverts teintent, le père fait toujours la gueule, à se demander comment il peut encore manger avec ses lèvres serrées comme ça, un barbelé d'un coin de la bouche à l'autre. Et Marlowe regarde sa mère rire. Elle la regarde rire en serrant les dents. Sa mère rit beaucoup quand ils sont réunis autour d'une table. Marlowe a mal au ventre. Le rire de sa mère, les autres ne l'entendent pas. Comme si une vitre s'était dressée entre les gens et le rire de sa mère. Les plats tournent, Starsky et Hutch font crier la sirène, et la grand-mère brandit la mouna. « Vous allez pas me laisser ça, un dernier petit bout avec le kawa ?» Marlowe est en sueur. Elle se met en colère, mais personne ne l'entend. Les cris encore, à l'intérieur. Son ventre va se déchirer. La vitre s'est aussi dressée entre ses cris et les gens autour de la table. Un vrai palais des glaces, ce repas de famille. Ses lèvres restent serrées et pourtant elle crie, elle hurle de toutes ses forces, mais le son de sa voix ne passe pas à la vitre. Si elle avait eu cet objet qui imprime les paroles, elle aurait pu monter le son. Pourquoi vous ne riez pas avec maman? Vous ne voyez pas qu'elle a besoin que vous riez avec elle? Que ça lui ferait moins mal si on riait tous ensemble? Et puis vous ne pouvez pas l'aider? Le cul bien vissé sur votre chaise, à lui faire faire des allers-retours à la cuisine? Pourquoi c'est toujours elle qui s'occupe de tout? À cette heure-ci, les rues sont désertes. Même si dans la journée, les gens ne se marchent pas dessus non plus. Elle invente toujours une histoire pour que sa grand-mère n'ait pas trop le temps de s'inquiéter. Avant de s'enfermer dans la chambre, elle lui dit « Ne me dérange surtout pas avant trois quarts d'heure, une heure. Je réfléchis, j'écris un poème. » Marlowe ne sait pas si elle la croit, mais Minouche respecte. Elle arrive toujours chez ses parents avant que sa grand-mère ne se soit aperçue qu'elle était partie. Comme ce mardi soir. Marlowe arrive. Sa mère est en train de préparer de la semoule de couscous. Morte de rire. Elle la regarde et ne semble pas étonnée de sa présence. Elle a oublié que Marlowe ne devait pas être là. Marlowe là, Marlowe pas là. Ça ne fait pas une grande différence. Mais maintenant, Marlowe est là. La télévision braille dans le salon. Sa mère commence à verser de l'eau sur la semoule de couscous. Et là, elle change d'avis. Elle ne va pas faire du couscous, mais une sculpture. Après avoir versé un peu trop d'eau, un peu trop fort, un peu trop vite, la semoule s'est transformée en une masse compacte et blanche. On dirait une grosse pierre. Sa mère se met à rire aux éclats. Et elle commence avec ses doigts à tripoter le bloc néo-alimentaire et à tenter de refaire des petites boules. Elle roule des bouts de bloc entre ses doigts, très vite, puis les rejette dans le plat. Un paquet de billes tombé au fond d'un saladier. Marlowe la regarde sans bouger, puis se met à ramasser les petites billes de plâtre qui n'ont pas atterri dans le saladier, mais par terre. Et puis zut, c'est raté. Tant pis. Son père entre dans la cuisine. En voyant la création plastique, il se met à brailler plus fort encore que la télévision. Il a faim, bordel. Et qu'est-ce qu'on va bouffer maintenant? Il n'avait pas ouvert la bouche depuis 3 semaines. Pas un mot. Ça lui arrive environ tous les 2 mois, à peu près la moitié de l'année, à faire fonctionner ses cordes vocales. Peut-être qu'il les économise. Et ce soir-là, la mère de Marlowe, avec sa performance, a réussi ce miracle. Il a retrouvé la parole. Mais elle ne rit plus. Il y a toujours plus fort que le rire de sa mère. Les yeux de son père. Les yeux de son père sortie du silence sous le rire de sa mère. Une catastrophe naturelle. Elle se statufie et fond en larmes. Elle court dans la chambre, s'effondre sur le lit et s'étouffe dans ses sanglots. La télévision braille de plus belle et le père vide rageusement le frigo, ramène ses victuailles sur le canapé, prend la nourriture à pleine main, se vautre dedans et remonte encore le son du poste. Marlo se fait toute petite, plus encore qu'elle ne l'est. Son père doit oublier sa présence. Facile. Elle guette le moment opportun pour aller dans la chambre vérifier que sa mère n'a pas raté le lit sur lequel elle s'est jetée. Non. Atterrissage réussi. Personne n'applaudit. Elle va jeter un œil dans la chambre pour voir comment sa mère va. Elle s'est endormie. Marlo lui enlève ses chaussures et la recouvre d'une couverture. Son maquillage a coulé le long de ses joues et a laissé des traces noires de jais sur sa peau pâle. Marlo va chercher un bout de coton, met dessus un peu de crème et le passe doucement sur le visage de sa mère. Elle ne veut pas qu'elle voie le lendemain matin les traces de ses yeux de braise morts sur ses joues. Ça lui ferait trop mal. Elle met son réveil. 6h30. Non. 6h45. Demain, ça suffira. Marlo va se coucher. Il y a école demain. Elle est en CM1. Ligne 2. Anvers. Pas en avance. Il pleut. Mais c'était bon de te regarder ce matin. De te regarder me regarder. De te regarder me faire du café. De te regarder me demander si j'étais bien. Dans la lumière blanche de notre appartement. Notre refuge. Mon premier et unique refuge. Ta main dans mes cheveux. Jaurès. Changement. Métro, boulot, dodo, solo. Rejoignez Mythique. A million New Yorkers are good without God. Are you? Célibparis.com, votre cœur va aimer. SPA, 100 000 abandons au box-office. La France remporte la palme. Ligne 7 bis. Te regarder dévaler les escaliers en courant pour aller me chercher un fruit. Tu sais que j'aime les fruits le matin. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Attention à la fermeture des portes. Merde, mes lunettes. J'ai oublié mes lunettes de piscine et mon maillot de bain dans mon autre sac. Celui que j'ai pas pris, évidemment. Il allait pas avec mon t-shirt. Il me reste exactement 1h40 pour nager. Je nage une heure. Il me reste 40 minutes pour faire le chemin à l'envers et revenir jusqu'ici, c'est foutu. Et il pleut. Allô, c'est nul, j'ai tout oublié dans mon sac, l'autre, le verre. Celui qui est posé sur le lit, je peux pas aller nager, je reviens. Quoi? La moitié du chemin? Jaurès? T'es sûr? Tu vas faire ça? Pour moi? Pour des lunettes? Mes lunettes? Mais il pleut. Comment ça je n'aurais pas à sortir du métro? Mais c'est pour toi que je dis ça. Il pleut? Ben oui, ça me va. Bah bien sûr que oui, ça me va. Mais je sais pas si ça me va. Je connais pas. Comment ça pourrait m'aller de te faire dégringoler toute cette eau dessus pour tes lunettes de piscine? D'accord. Tu vas traverser Paris sous la pluie pour m'apporter mes lunettes et mon maillot de bain. D'accord. Puisque tu trouves ça normal. But Chaumont, ligne 7 bis. Dans l'autre sens, Attractive World, célibataire et exigeant, de Van Gogh à Ponard, le grand atelier, attention à la fermeture des portes. 11h45, Jaurès. Tu devrais être là dans un quart d'heure. Je m'assieds sur un banc. Je regarde mes pieds. Je me sens mal. Je n'ose pas relever la tête. J'ai des frissons. J'ai l'impression de sentir la pluie rouler sur ma peau. La pluie qui est en train de glisser sur toi. J'ai froid. J'ai l'impression de t'avoir infligé une punition. Je peux pas le supporter. Et puis quand je me décide à regarder au bout du quai, je te vois. Un large sourire te barre le visage. Tu agites la main dans ma direction. Tu avances rapidement jusqu'à moi et tu me prends dans les bras. Tu m'embrasses. Tu me serres. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui vient de recevoir une punition. Tu es beau. Pourtant, il pleut.